Le coup d'état de Chéribibi, chapitre 14. Chéribibi et la ficelle. Monsieur Hilaire suivait donc le marchand de cacahuètes. Tout doucement, l'autre s'était mis à remonter les quais. Il ne devait pas être loin de 3 heures du matin. Des ombres singulières apparaissaient tout à coup et disparaissaient presque aussitôt, frôlant le père Cacahuète, qui, lui, ne paraissait s'étonner de rien, marchant toujours, qu'un cas, son petit baril au bras, avec l'allure d'une vieille qui revient de faire ses provisions. De l'autre côté de l'eau, des coups de sifflet bizarres semblaient s'appeler et se répondre. La nuit était menaçante de mystère. Enfin, Monsieur Hilaire regrettait de n'être point couché tranquillement à côté de Madame Hilaire, son épouse. Et cependant, il venait de retrouver Chéribibi, car c'était bien lui. Il ne pouvait plus en douter, et les dernières paroles relatives à la morue espagnole dont il régalait jadis son ami avaient définitivement éclairci ses soupçons. Chéribibi, qu'il avait tant aimé, qu'il avait tant pleuré, était vivant. D'où venait donc que le cœur de M. Hilaire n'était point rempli d'une sublime allégresse? Déchu moralement et physiquement, Chéribibi n'était plus qu'une ruine. En vérité, cela, M. Hilaire osait à peine se le dire, au fond, tout au fond de son obscure conscience. N'eût-il point mieux valu pour Chéribibi qu'il fût mort, mort héroïquement, superbement, dans l'incendie de la falaise, sous les ruines fumantes de la maison du Touchet, ou au bagne quand il y était retourné, que de ressusciter à nouveau aux yeux attristés de la ficelle, chut, de Monsieur Hilaire, dans la lamentable carcasse d'un marchand de cacahuètes. Regardez-le, le pauvre, comme il traîne la patte, s'interpellait en douceur Monsieur Hilaire. Si ça n'est pas à pleurer, il doit être perclus de rhumatisme. Pourquoi n'est-il pas venu me trouver plus tôt? Sans doute parce qu'il avait honte. Je lui ferai une petite rente, sans en parler à Madame Hilaire. Pauvre Chéribibi. Mais où va-t-il? Où va-t-il? Ah, on entre dans le cul-de-sac historique. Oui, Monsieur Hilaire reconnaît le cul-de-sac historique. C'est là que le duc d'Orléans fut assassiné au temps des Armagnacs. On était dans le quartier des Francs-Bourgeois, dans le quartier de Monsieur Hilaire. Quand Monsieur Hilaire arriva au coin du cul-de-sac, qu'un pâle reflet de lune éclairait bien faiblement, il allongea la tête et vit Papa Cacahuète en grande conversation avec un petit gars à casquette et à accroche-cœur sur les tempes, dont l'aspect seul causa à M. Hilaire une répugnance que nous renonçons à décrire. Voilà donc les gens qu'il fréquente maintenant? Le gars à casquette se trouvait entre les brancards d'une voiture à bras qui paraissait lourdement chargée de 2 sacs. Il l'avait tiré jusque-là et sans doute attendait-il des ordres. C'est alors que Papa Cacahuète lança un sifflement strident qui fit bondir de long Monsieur Hilaire, comme il lui arrivait autrefois quand Chéribibi l'appelait pour une besogne pressée. Monsieur Hilaire ne se rendit compte de la spontanéité touchante de son geste que lorsqu'il fut près de Papa Cacahuète. Monsieur Hilaire rougit dans l'ombre, et Papa Cacahuète se mit à rire à petits coups déplaisants en grinçant entre ses dents, car il les avait conservées toutes, une mâchoire terrible. « Bravo, Monsieur Hilaire !» L'épicier eut un haut de corps et fit un pas de retraite. Décidément, Chéribibi allait le compromettre. Il eut envie de lui souffler « Ne me nommez pas, je suis dans mon quartier !» Mais après tout ce qu'il venait de voir, il était inutile d'apprendre à Chéribibi qu'il habitait dans ce quartier-là. « On ne s'est jamais rencontré, pensa-t-il, parce qu'il doit sortir pour aller vendre ses cacahuètes à l'heure où je me couche. » Quand il eut fini de rire, le vieillard dit en montrant le jeune homme à la casquette « Monsieur Hilaire, je vous présente le jeune Mazeppa, employé chez un cafetier où il est chargé de vider les fonds de petits verres. Entre-temps, il fait mes commissions. Il vient de m'apporter 2 sacs de cacahuètes que vous aurez la bonté de décharger avec moi, car Mazeppa est pressé, son patron le réclame. « Je peux compter sur vous, monsieur Hilaire. » « Oui, oui, mais comment donc ?» Monsieur Hilaire ne savait plus où se mettre. Ce fut bien autre chose quand monsieur Mazeppa, après avoir salué respectueusement papa Cacahuète, lui serra la main, à lui comme à un vrai poteau. Mais déjà chéri Bibi le mettait à la besogne. Il dut soulever avec lui l'un des sacs. Jamais monsieur Hilaire n'aurait pensé qu'un sac de cacahuètes pouvait être aussi lourd. Chose extraordinaire, il pliait, lui, sous la charge, et chéri Bibi la soulevait sans effort apparent. « Tiens, tiens, pensa-t-il, il est moins déjeté que je pensais. » Papa Cacahuète avait poussé la porte basse de son caveau, car c'est là qu'il habitait, et il guidait l'expédition. « Prends garde à te casser la margoulette, » fit-il de sa voix rauque. « C'est déjà arrivé dans le temps. » À cet endroit-là, aux Dames d'Orléans. Pas la peine de recommencer l'histoire, c'est pas ? Attention, il y a 10 marches. 10 marches à descendre. Et nous sommes au premier étage. Ils étaient dans une nuit profonde. Monsieur Hilaire suait, soufflait. « T'as vieilli, la ficelle !» grogna le vieillard. « Chut ! Te demande pardon, monsieur Hilaire. Silence !» « Ben, comment veux-tu que je t'appelle ?»« Ne m'appelez pas !» On entendit dans l'ombre comme une sorte de rugissement, et M. Hilaire laissa échapper son sac, qui continua de descendre sans lui. « Remonte !» fit la voix qui avait rugi. M. Hilaire remonta à reculons, comme pour repousser l'agression de l'ombre. Cependant, il parvint au niveau du cul-de-sac, sain et sauf. Mais sous la clarté lunaire, la figure terrible du marchand de cacahuètes apparut, presque aussitôt. Le vieillard était tremblant de fureur. Il s'enfuit tout seul à la charrette, qui dressait vers le ciel ses brancards suppliants. D'un seul effort, et avec un « Hum !» d'effroyable orgueil, chéri Bibi jeta sur son dos le second sac de cacahuètes. Et alors, se retournant vers monsieur Hilaire et lui montrant l'extrémité de la ruelle où cliquetait la lueur blafarde du réverbère. « Va-t'en » commanda-t-il. Et il s'enfonça dans son caveau, la charge énorme du sac sur son épaule et repoussant derrière lui, d'un coup de pied méprisant, la porte qui se referma, le séparant d'un compagnon indigne. Monsieur Hilaire se traîna jusqu'à la porte. Il en secoua la clenche, il fit entendre les plus pitoyables gémissements. Il eut des mots d'une douceur admirable, car son repentir était sincère. Oui, il comprenait la colère de chéri Bibi et son indignité à lui, monsieur Hilaire. Et il demandait pardon. « Chéri Bibi, pardonne-moi » gémissait-il. « Ouvre-moi ta porte, ouvre-moi ton cœur, c'est moi la ficelle qui t'en supplie. C'est votre serviteur, monsieur le marquis, qui se traîne à vos pieds. » Il ne put continuer ses beaux discours. L'émotion l'étouffait, les larmes le noyaient, et certainement monsieur Hilaire menaçait de succomber à son désespoir quand la porte basse se rouvrit. Quand une main le ramassa sur le pavé où il traînait ses soupirs et son remords, et l'attira dans le trou, sous terre, dans cette nuit de cave où il se sentit tout à coup entre des bras puissants qui l'étreignaient, et sur un cœur qui battait avec rudesse au rythme de la plus sublime amitié, celle qui pardonne. « Mon bon Hilaire, tu m'aimes donc toujours ? Si je vous aime ? « Ah, monsieur le marquis !»« Non, non, dis-moi, chéri Bibi, comme au premier jour, et tutoie-moi. »« Si je t'aime, chéri Bibi, c'est-à-dire que je ne t'ai jamais autant aimé. »« Ma vie, mon bien, tout est à toi, tout appartient. Dispose de moi comme autrefois. Autrefois ? Ah, la ficelle, autrefois. Tiens, laisse-moi pleurer, mon ami. Te rappelles-tu ce jour où nous descendions ensemble pour la première fois la côte de Dieppe ? Nous arrivâmes au Polet, je te montrai la boucherie où l'on m'avait mis jadis en apprentissage et où j'avais appris à donner mon premier coup de couteau. Si je me rappelle, monsieur le marquis, avec quelle émotion vous regardiez l'étalage, vous disiez « Rien n'a changé ». Je reconnais le seigneur, je reconnais le tinet. Ici, il y a toujours eu de la viande coche. Et quand la marquise nous attendait, ma bonne et douce Cécilie, et qu'elle nous saluait de loin si gracieusement en agitant son mouchoir de dentelle. D'une main, monsieur le marquis, car de l'autre, elle tenait votre enfant dans ses bras. À cette évocation succéda un silence plein de larmes. Voyons, il faut être un peu raisonnable. Là, laisse-moi allumer un bout de chandelle. Ne bouge pas, tu pourrais te casser une patte. Bientôt, un modeste luminaire brilla au point de chéri Bibi, et il fit faire à monsieur Hilaire le tour de ses appartements. C'était quelque chose de bien triste, de bien nu, de bien moisi. Des caves. Ce n'était pas autre chose que des caves, au mobilier d'un sommaire qui faisait pitié à monsieur Hilaire, lequel avait une belle chambre à coucher en acajou pur Louis-Philippe. Monsieur Hilaire poussa un soupir. « Mon bon la ficelle, tu trouves que tout est bien pauvre ici. C'est que je ne t'ai pas tout montré. Viens, maintenant tu vas voir mes richesses. » Il prit un trousseau de clés, et au bout d'un humide couloir, il ouvrit une porte dissimulée derrière des planches. Alors, avec sa chandelle, il alluma 10 bougies. Monsieur Hilaire recula, ébloui. Les murs de cette petite cave, toute resplendissante de lumière, étaient couverts des portraits d'une femme et d'un enfant. Mais quel portrait ! Jamais, sur les murs des basiliques byzantines, tant de joyaux, tant de perles, tant de colliers n'avaient été suspendus avec plus d'amour autour d'une icône de la Vierge et de l'enfant Jésus. C'étaient là les portraits de Cécilie, aux jours les plus heureux de sa beauté et de sa maternité. Et c'étaient les portraits du petit Jacques, à tous les âges, depuis le berceau. « Ah, mon Dieu !» exprima monsieur Hilaire, touché jusqu'au fond du cœur par ce spectacle merveilleux. « Je l'ai toujours dit que vous étiez un homme de famille. » « Je n'ai jamais demandé qu'à vivre tranquillement entre ma femme et mon fils, en bon époux et en bon père, » répliqua le vieillard. « Et ce n'est pas de ma faute s'il en a été autrement. » Mais monsieur Hilaire se mit à réfléchir que si tous les joyaux qui étaient là étaient du vrai, il y avait dans cette cave une bien jolie fortune. « Tout ce que je gagne y passe, » fit entendre papa Cacahuète, qui répondait ainsi à la pensée intime de monsieur Hilaire. Et monsieur Hilaire eut un haut-le-corps. Il songea que ce ne pouvait être avec la vente de quelques cacahuètes que le vieillard se payait le luxe d'offrir de tels bijoux à sa femme et à son fils. Cependant, chéri Bibi était en extase devant les portraits. « Je ne manque jamais, » expliqua le bonhomme, « de leur offrir un petit cadeau pour leur fête, pour leur anniversaire, et chaque fois que je retrouve sur le calendrier la date d'un événement heureux de notre bonne vie d'autrefois. Ma chère femme, mon cher enfant, mon petit. Tiens, la ficelle, je vais te montrer quelque chose. » Ce disant, il ouvrit un coffre, puis continua. « Quand j'ai su qu'il allait entrer dans l'armée, j'en ai été plus fière que l'on ne saurait dire. À la bonne heure, un touché ne pouvait être qu'un soldat, un bel officier avec un beau sabre, et je lui ai offert son premier sabre. Tiens, voilà son premier sabre. Maintenant, je vais te montrer autre chose. » « Voici la croix de la Légion d'honneur de mon fils. » Il l'embrassa. « Figure-toi que je la lui avais offerte bien avant que le gouvernement la lui donnât. J'envoyais cette croix bien mystérieusement à la mère en lui faisant dire qu'un admirateur de son fils serait heureux qu'elle voulût bien accepter ce présent et l'attacher elle-même sur sa poitrine. Tu penses si je rêvais en attendant la réponse? Hélas, la réponse ne se fit pas attendre. Cécilie fit retourner la croix, disant qu'elle ne pouvait accepter le présent d'un inconnu. J'en ai pleuré 8 jours. Elle l'avait sans doute trouvé trop riche. Regarde donc ces diamants. Ah, que j'ai pleuré! Mon fils est le plus intelligent, et le plus beau, et le plus fort. Il mettra la République dans sa poche. Il sera roi. Je lui fais faire une couronne en ce moment, à Paris, chez le premier joaillier de la rue de la Paix. Enfin, je vais te dire encore une chose ineffable. Je vois Cécilie tous les jours. Tu vois Cécilie? Vous voyez Madame la Marquise tous les jours? Comme je te vois, mon bon Hilaire. Mais elle ne sort jamais. Ah, tu sais cela, toi. Eh bien, mais c'est peut-être qu'elle me reçoit. Elle vous reçoit? Tu vois bien que je plaisante. Mais tiens, monte avec moi sur ce banc. Regarde par cette petite ouverture grillagée et dis-moi ce que tu vois. Je vois, à la lumière de la lune, un jardin avec de vieux bancs de pierre moussue, du lierre sur les murs et de l'herbe dans les allées. Un petit jardin bien triste. Il n'est point triste quand elle vient s'y promener, soupira chérie Bibi. Et il me paraît alors plus grand que l'univers. C'est donc là qu'elle habite ? Demanda la ficelle. Je suis allée pourtant quelquefois chez elle, mais je ne connaissais point le côté jardin de l'hôtel de la Morlière. Vois-tu, mon bon la ficelle, du moment que Dieu m'a donné ce petit soupirail, je n'ai plus rien à lui refuser. À qui ? À Dieu. Il peut me demander tous les crimes dont il a besoin. Il les a. Monsieur Hilaire, maintenant tout à fait rassuré sur la santé de chérie Bibi, commençait à avoir un peu moins de pitié pour lui, en même temps qu'il lui rendait beaucoup de son admiration terrifiée d'antan. Mais il ne parvenait point, après ce qu'il venait d'entendre, à se délivrer complètement d'une certaine inquiétude en ce qui le concernait, lui, monsieur Hilaire. Aussi, ce ne fut pas sans un certain émoi qu'il s'entendit interpeller, bien amicalement cependant, en ces termes pourtant engageants. « Et toi, mon bon Hilaire, voyons, qu'est-ce que tu deviens ?» Maintenant, ils étaient revenus dans le taudis, entre un grabat, un vieux bureau à 3 pattes et les 2 sacs de cacahuètes qui gisaient toujours dans un coin. « Eh bien, mais, » répondit monsieur Hilaire avec un sourire un peu niais, « Eh bien, mais ça ne va pas trop mal. Et ta Virginie ?» reprit chérie Bibi. « A-t-elle un caractère toujours difficile ?»« Mais enfin, elle ne te rend plus malheureux. Comme c'est moi qui ai fait le mariage, je ne m'en consolerai jamais. Et puis, tu sais, tu n'aurais qu'un mot à me dire. Je lui aurais bientôt fait passer le goût de la mélasse à ta Virginie. » Monsieur Hilaire se leva, épouvanté. « Ciel, monsieur le marquis, ne touchez pas à ma femme. » « Mais là, je n'en ai nulle envie. S'il lui arrivait jamais malheur, je la connais. Elle viendrait me tirer par les pieds toutes les nuits. Ah, monsieur le marquis, ne me faites pas peur. Qu'avez-vous donc cru? Mais nous faisons bon ménage depuis nos dernières aventures. Nous sommes cités dans le voisinage comme des époux modèles. De temps en temps, nous avons une petite discussion. Mais dans tous les ménages, n'est-ce pas, on a ses heures d'impatience. »
« Certainement.
Et pourvu que je lui obéisse en tout et que je fasse ses 4 volontés, elle finit par me céder. »
« Cette brave Virginie !»«
Oh, elle a des qualités. Elle tient bien la caisse. Il n'y en a pas une comme elle pour la comptabilité. Et elle m'est fidèle. » « Et toi, lui es-tu fidèle ?»«
Oh, ça, je vous le jure, monsieur le marquis. »
Je n'ai jamais oublié vos principes en cette matière, et j'aurais été le dernier des misérables si je n'avais point profité de vos leçons et de votre exemple. »
C'est bien, ami la ficelle,
répondit Chéri Bibi sur le ton le plus grave et en ne dissimulant pas sa satisfaction. Chéri Bibi n'avait jamais plaisanté sur le chapitre des mœurs.
Mais je dois vous dire, continua Monsieur Isère, que ma femme est tellement tyrannique, car elle est tyrannique, qu'elle m'a fait faire de la politique malgré moi.
Et Monsieur Hilaire toussa.
Eh, mon cher, elle a bien fait,
s'exclama Chéri Bibi. Dans les temps troublés où nous sommes, nul n'a le droit de se désintéresser de la chose publique.
Du moment que c'est votre avis, je suis heureux que Virginie se soit rencontrée avec vous sur ce point,
soupira Monsieur Hilaire en essuyant quelques gouttes de sueur qui lui perlaient aux tempes.
Alors, ta femme a voulu que tu fasses de la politique. Sans doute a-t-elle de l'ambition pour toi, ta femme.
Oui, monsieur le marquis, répondit Monsieur Hilaire de plus en plus embarrassé.
Elle désire que je sois conseiller municipal.
Bravo, bravo, nous t'y aiderons, ma parole. Cela vaut mieux que de perdre son temps au club.
Mon Dieu, gémit en lui-même Monsieur Hilaire, pourvu qu'il ne sache jamais que je suis secrétaire de l'arsenal.
Et comme il se rappela soudain la lecture du journal du soir faite au dancing du Grand Parc, lecture qui lui avait appris, à lui, secrétaire du club de l'Arsenal, les derniers travaux de la nuit et l'adoption de la motion Tolosé réclamant la peine de mort contre le commandant Jacques, il eut comme une sorte de défaillance.
« Et là, la ficelle, tu n'es pas malade ?»«
Non, non, j'ai eu comme un éblouissement. » Ça m'arrive quelquefois.
C'est la trop bonne nourriture, fit Chéri Bibi. Il faut soigner ça, la ficelle. Tu habites loin, mon garçon?
Non, pas très loin, comme qui dirait à côté.
Attends donc, ah, c'est donc cela, la grande épicerie moderne? C'est toi, Hilaire, qui es propriétaire de cette superbe épicerie et de ces superbes produits alimentaires?
C'est mon magasin.
Tous mes compliments, tu en as fait du chemin depuis la rue Saint-Roch.
Maintenant, mon petit la ficelle, parlons sérieusement, mais aide-moi d'abord à vider ces deux sacs de cacahuètes.
D'un geste, le vieillard avait tiré à lui le grabat, découvrant ainsi une trappe dans l'antique maçonnerie de cette bâtisse plusieurs fois centenaire. Il rabattit la trappe. Une fraîcheur humide et froide envahit le misérable sous-sol. En même temps, on entendit comme une espèce de glu-glou de source souterraine.
« Surtout n'approche pas trop près, cela coule dans les profondeurs, et cela se perd on ne sait où, dans les catacombes. Une source qui apparaît et disparaît, replonge sous la terre, emportant tout ce qu'on lui confie, ne le rendant jamais. Donne-lui quelques cacahuètes, la ficelle. »
Cet étrange langage n'était point pour rassurer Monsieur Hilaire. « Tiens, prends la pouche par un coin comme moi, soulève et secoue et tire en arrière. Là, tu vois bien que ce n'est pas difficile. »
Horreur ! De la poudre glissait avec une grande quantité de cacahuètes un cadavre. Et Monsieur Hilaire reconnut l'orateur fougueux et si plein de vie et d'ardeur anarchiste qui tempêtait le matin même sur une table du club des Francs Archers. Monsieur Hilaire laissa tomber le sac vide. Et Chéri Bibi, du bout de son pied, fit rouler le corps jusqu'au bout de la trappe. Le corps bascula, disparut. Quelques secondes plus tard, on entendit un sourd « floche » et tout fut dit pour celui-là. C'est en vain que Chéri Bibi essaya d'emprunter le secours de son ami la ficelle pour le second sac. La ficelle n'était plus qu'une statue de l'épouvante. Chéri Bibi vida donc le second sac tout seul, et encore, parmi les cacahuètes, apparut un second cadavre. Cette fois, Monsieur Hilaire reconnut son ami Tolosé du club de l'Arsenal. Il tomba à genoux en joignant les mains. mais Chéri Bibi referma la trappe du pied. Sans doute avait-il assez donné à la mort ce jour-là. Il considéra avec pitié la pauvre chose qui haletait dans un coin de son taudis.
« Pourquoi gémis-tu »
exprima-t-il d'une voix effroyablement calme. « Qu'importe quelques vagues humanités. Allons, debout la ficelle. Rappelle ton cœur et ton courage d'autrefois. Regarde-moi et ne te fie pas aux apparences. Vois, je suis aussi fort et plus terrible que jamais. » Ce disant, le vieillard s'était redressé. Ses jambes s'étaient détendues, sa taille avait grandi, sa poitrine, ses épaules, son torse magnifique se développaient dans toute leur ampleur. L'écharpe qui lui cachait le visage était tombée, et au-dessus de ce corps de titan apparut une tête démoniaque, illuminée par le flamboiement de forge du regard de Chéri Bibi, du regard délivré un instant des lunettes noires.
« Pourquoi recules-tu épouvanté ?» demanda Chéri Bibi, se croisant les bras sur son orgueilleuse poitrine.
« Autrefois, tu ne me craignais pas, et ta parole amie était la seule qui me consola aux heures de ma fatalité. Allons, debout, l'heure sonne encore, on a encore besoin de moi. » Dieu, voyant un jour tout le mal qu'il fallait accomplir pour faire le bien, a reculé devant une pareille responsabilité. Et il a créé Chéri Bibi. Ce fut comme une apparition monstrueuse et magnifique du génie du mal. Et soudain, tout cela disparut comme par enchantement. Monsieur Hilaire ne vit plus devant lui que le chétif vieillard qui se tourna vers lui en disant « À propos, monsieur Hilaire, comment se fait-il que vous ne m'ayez pas encore parlé de vos fonctions à l'arsenal ?» Monsieur Hilaire ne répondit pas. Monsieur Hilaire, qui avait déjà éprouvé tant d'émotions au cours de cette nuit historique, était incapable d'articuler une syllabe. Il étouffait.
L'arsenal, moi je ne suis pour rien là-dedans. C'est Virginie qui l'a voulu. On m'a nommé membre du club, membre du comité. On m'a nommé secrétaire. Je n'y suis absolument pour rien.
Et tes discours ?
« Ah, mes discours, mon Dieu, mes discours !» fit Monsieur Hilaire, qui pâlissait. « Ils étaient bien anodins, mes discours, bien quelconques.
Je te demande pardon ?»«
Comment, monsieur le marquis, on vous a parlé de mes discours ?»«
Eh, je les ai entendus !»«
Vous les... » Monsieur Hilaire s'affaissa sur la première marche de l'escalier.
« Voilà que tu manques d'air maintenant !» fit Chéri Bibi.
« Attends un peu, je vais ouvrir la porte. Et puis nous allons sortir. Ça te fera du bien, et à moi aussi. Du reste, nous allons aller faire ensemble un petit tour à la campagne. Regarde, voici l'aurore, la belle aurore d'un beau jour. En route !» Et il l'entraîna, répétant les phrases de Monsieur Hilaire qui lui étaient restées dans la mémoire.
« Citoyens, assez de vaines paroles, des actes. Désignons à la vindicte publique tous ceux qui auront élevé la voix en faveur du rétablissement d'un odieux despotisme. Et s'il en est besoin, que l'on nous rende la loi des suspects. »«
C'est Virginie !» souffla Monsieur Hilaire.
« Quoi, Virginie? C'est elle qui t'avait écrit ton discours? Eh bien, tu l'en féliciteras. » « Moi, je trouve qu'elle a admirablement mené notre affaire. »«
Vous trouvez ?»«
Quand je t'ai entendu prononcer ce discours-là, je me suis dit, ça, c'est rudement fort. Monsieur Hilaire est devenu le maître de la situation. Le club de l'Arsenal est à nous. »«
Ouf !» soupira Monsieur Hilaire. « Voilà justement ce que je me suis dit aussi. Le club de l'Arsenal est à nous. »
« Désormais, » continua imperturbablement Chéri Bibi, « il pourra, ce terrible club, décider tout ce qu'il voudra, et il ne le fera point sans nous. »«
Oh, il ne peut rien faire sans nous. Quelle consolation de se dire cela !»«
Nous serons dans le secret des dieux. »«
Évidemment, »
acquiesça Monsieur Hilaire avec un nouveau soupir. « Et quelle force pour nous quand nous nous présenterons au nom du club de l'Arsenal !»«
Rien ne nous résistera !»
murmura plaintivement Monsieur Hilaire.
« Nous connaîtrons ainsi les amis et les ennemis du commandant Jacques. Car tu dois être un subdamoun enragé, mon bon Hilaire !»«
Enragé, monsieur le marquis ?»« Dans le cas, » reprit Chéri Bibi, « où notre entreprise contre la République de Monsieur Hérisson ne réussissait point autant que nous devons l'espérer, c'est ta situation exceptionnelle dans ton quartier qui nous sauverait. Qui oserait te soupçonner ? Ta cave deviendrait le surrefuge de nos amis proscrits. C'est là qu'ils trouveraient une sécurité momentanée dont le besoin peut toujours se faire sentir. Car enfin, il faut tout prévoir. Fit Monsieur Hilaire qui se reprit à tousser.
« Mets ton foulard !»
conseilla sagement Papa Cacahuète.
« Bien entendu, ma cave est toujours là. Sans compter que Madame Hilaire, d'après ce que tu m'as dit, saurait se montrer à la hauteur des circonstances. C'est elle qui serait chargée de ravitailler les proscrits.
Madame Hilaire.
Quoi, Madame Hilaire?
Eh bien, entre nous, il vaudrait mieux ne rien dire à Madame Hilaire.
Ne t'affole point, mon bon Hilaire,
reprit d'un air bonasse l'excellent vieillard. Pour le moment, il ne s'agit que de victoire, et nous allons tous les deux achever de l'organiser.
Je croyais que nous partions pour la campagne.
Oui, à Versailles. C'est là que nous allons achever d'organiser la victoire. Mais avant de prendre le train, tu vas te munir d'une cinquantaine de laissez-passer au sceau du club de l'Arsenal.
« Grand Dieu !» s'exclama Monsieur Hilaire.
« Que se passe-t-il encore ?» demanda Papa Cacahuète.
« Ta conscience répugnerait-elle à de pareils moyens ?»«
Aucunement, aucunement, et je suis bien heureux, au contraire, d'avoir cette occasion de vous rendre service. »
« Eh bien, alors ?»«
Eh bien, alors, c'est laissé passer, il faut que j'aille les chercher chez moi. »«
Naturellement. »
« Et si j'entre chez moi, ma femme, je le crains, fera quelques difficultés pour me laisser ressortir. »«
Tu lui diras que c'est pour la grande cause, mon bon Hilaire, et elle te laissera faire tout ce que tu voudras. »«
Ah, bon, vous ne la connaissez pas. »«
Va, Hilaire, va, voici là ta splendide boutique. Ce n'est pas le moment de te montrer pusillanime. Va, mon ami, je t'attends. »
L'ordre était catégorique. Monsieur Hilaire ne se le fit pas répéter, et c'est avec une angoisse inexprimable qu'il s'avança vers le seuil de son auguste demeure. Il ouvrit en tremblant la petite porte basse percée dans la tôle de la devanture et la referma derrière lui. Chéri Bibi attendit. D'abord, rien ne vint attirer son attention. Et puis, peu à peu, il s'intéressa à un certain murmure grossissant qui venait du premier étage. Il se faisait là-haut un certain tumulte. Ainsi, on percevait nettement le bruit de la vaisselle cassée. Et puis, tout ce bruit sembla descendre, rouler du premier étage au rez-de-chaussée avec un fracas extraordinaire. De grands coups sourds retentissaient entre les cloisons, comme si elles eussent été bombardées de projectiles. Une vitre se brisa, on entendit des cris, des lamentations, des supplications. Chéri Bibi se dit, sans autre émotion, « C'est Madame Hilaire qui se réveille !» Et il commençait à plaindre sérieusement son ami la ficelle, quand son attention fut soudain attirée par une sorte de gémissement qui sortait de terre, à ses pieds. C'est alors qu'il vit apparaître un soupirail donnant sur les fameuses caves de la grande épicerie moderne, la tête ébouriffée, affolée et fortement contusionnée de ce pauvre monsieur Hilaire.
« Vite, aidez-moi à sortir de là !» râlait le malheureux garçon. « Elle arrive ! Vite, sauvez-moi !
Prends ma main !»
fit Chéri Bibi en allongeant son énorme patte. L'autre s'y accrocha comme le naufragé s'accroche à la branche qui seule peut le sauver d'une catastrophe imminente. Oh, isse ! Et Chéri Bibi sortit de l'enfer et de sa cave, ce pauvre monsieur Hilaire, que Madame Hilaire continuait à chercher partout avec des imprécations dont l'écho fit filer les deux compères.
« As-tu au moins les cartes du club ?» demanda Papa Cacahuète.
« Oui, oui, je les ai !» souffla Monsieur Hilaire en se frottant la tête. « Oh là là, quelle tempête ! Quelle femme ! Non, regardez-moi comme elle m'a arrangée ! N'est-ce pas honteux ?»
Chéri Bibi considéra Monsieur Hilaire avec un certain apitoiement.
« Non, non, vraiment !» Monsieur Hilaire n'était pas beau à regarder au sortir de sa cave, dans le matin blême de ce jour mémorable. Il n'avait pas de faux col, plus de cravate, le plastron de sa chemise avait été arraché. Son beau veston du dimanche n'était plus qu'une loque. Son couvre-chef, naturellement, était resté sur le champ de bataille. Et on aurait payé bien cher Monsieur Hilaire pour qu'il consentît à aller le rechercher.
Tout de même, reprit-il après quelques instants de silence. « Je ne puis courir les rues, ni même me promener à la campagne dans cet appareil de désordre. Je suis fait comme un voleur, ou plutôt comme un volé. »«
Je vais te dire comment tu es fait, » répliqua Chéri Bibi. « Tu es fait comme un orateur de club qui a rencontré des contradicteurs payés par la réaction. Je t'en prie, monsieur Hilaire, garde tes loques. »
Ils étaient arrivés au coin d'une rue. Monsieur Hilaire mit sa main sur le bras de Papa Cacahuète.
« Chut ! Mademoiselle Jacqueline, la reconnaissez-vous ? »
« Sœur Sainte-Marie des Anges !» prononça Chéri Bibi dans un souffle, cependant qu'il s'appuyait un peu contre son compagnon.
« Comme elle est matinale !» reprit-il avec un soupir.
« Je parie qu'elle va encore prier pour moi !»
Elle va à la messe de 5 heures, à Saint-Paul.
Chapitre 15. Brumaire. En arrivant au palais Bourbon, le commandant Jacques fut entrepris tout de suite par Michel et le patriote Lespinasse. Et, pendant que les députés pénétraient en hâte et avec toutes les marques de la plus vive inquiétude dans la salle des séances, où les huissiers, prévenus à la dernière minute par ceux des questeurs qui étaient de l'affaire, montraient des figures ahuries. Tous trois eurent un premier entretien.
« Tout va bien, » fit Michel. « Ils ont une peur de tous les diables. Si vous réussissez, ils vous en seront longtemps reconnaissants. Mais ne faites pas un faux pas, ou ils vous jettent par terre. Ils sont venus presque tous ici en faisant les étonner.
« Mais quoi ? » disent-ils.
Il n'était pas en leur pouvoir de ne pas obéir à une convocation régulière. Vous voilà prévenu. Tout ce qui semblera régulier, ils vous l'accorderont. Et ainsi se ménagent-ils une porte de sortie en cas d'insuccès. Le tout est de faire vite. Ah, ils voudraient bien être déjà à Versailles, et même en être revenus. Et moi aussi, je ne vous le cache pas. Ils n'ont pas oublié que le coup de Brumaire a failli rater parce qu'il a fallu 2 jours.
« Le malheur !» dit froidement le commandant, « et que nous n'aurons pas la Vaubourg !»
La foudre, tombant entre les deux députés, n'eut point provoqué un effet plus terrible.
« Quoi ? » balbutièrent-ils.
« Quoi ? Pas la Vaubourg ? Il va arriver, la Vaubourg ! Il devrait déjà être là. »«
Non, il ne viendra pas. Il nous lâche. »«
C'est donc cela que vous êtes si pâle ?»
« Mais qui va présider la chambre ?» gémit Michel.
Jacques n'écoutait plus Michel. Il regardait Lespinasse, qui tremblait d'impatience et d'angoisse de voir que tout fichait le camp, puisque tout reposait sur la Vaubourg.
« Lespinasse, fit Jacques en le brûlant de son regard, « vous avez été soldat et bon soldat. Vous allez m'obéir comme on obéit un chef de guerre.
Ordonnez mon commandement. »
Vous allez vous rendre chez Tissier.
Le second vice-président de la Chambre ?
Oui, mon commandant, il habite à 2 pas, ce sera vite fait.
Mais Tissier ne veut rien savoir !
s'écria Michel. « Je l'ai tâté moi-même. Il laissera faire et restera dans son lit. »«
Silence, monsieur, je vous prie. »
Et se retournant vers l'espinasse, il lui remit un dossier. « Vous montrerez ceci à Tissier. C'est l'un des dossiers de la commission d'enquête. Vous lui montrerez son nom sur la liste de ceux que l'on doit aujourd'hui même décréter d'accusation. S'il veut être sauvé, qu'il vienne. Ne lui dites pas que la Vaubourg nous claque dans la main. Dites-lui au contraire que c'est la Vaubourg qui préside. Enfin, amenez-le. Avec ce document, ce ne sera pas difficile. »
« Compris, fit l'espinasse. Il faut que je vous l'amène ici, de gré ou de force.
C'est entendu, commandant. Dans un quart d'heure au plus tard, nous serons ici tous les deux. »
« Vous me stupéfiez !»
exprima Michel qui soufflait bruyamment et s'épongeait déjà la sueur qui perlait sur son vaste front.
« Vous me stupéfiez ! Jamais je n'aurais cru que Tissier, un ami de Pagès, fût sur la liste de la commission d'enquête. »
« Il n'y était pas, » répondit tranquillement Jacques. « C'est moi qui l'y ai mis, et j'ai imité pour cela l'écriture de Coudry, mon cher. »«
Un faux ? Oh !»
s'exclama Michel avec admiration.
« Vous n'avez pas reculé devant un faux ? » ?»«
Ne perdons pas de temps, » répondit Jacques. « Rassurez les inquiets. Annoncez-leur que la Vaubourg a fait dire qu'il serait là dans 5 minutes. Moi, je cours prendre des nouvelles du Sénat. » Et il courut au téléphone, où il entra immédiatement en communication avec Frédéric. Au Sénat, tout marchait merveilleusement. Frédéric lui donna de rapides détails, le mit au courant de l'état des esprits. Et ça n'avait pas été long. Le président avait mis en discussion un projet de loi portant révision de la Constitution, projet rédigé par Oudard et Barclay. Et le projet avait été voté immédiatement, sans la moindre obstruction.
« Vous savez ce que j'attends de vous, » fit Jacques à Frédéric, toujours au téléphone.
« Oui, l'ordre du président du Sénat donnant au général Mabel, commandant les troupes de Versailles, la mission de veiller sur la sécurité de l'Assemblée nationale. Le président est en train de le rédiger. Je vous l'apporterai.
Je vous attends ici. La Chambre aura fini son travail dans 10 minutes. » Que tout le monde parte pour Versailles.
Ils ne veulent pas partir avant d'avoir reçu la nouvelle que la Chambre, elle aussi, a voté la révision de la Constitution.
Ils vont la recevoir. À tout à l'heure, Frédéric.
20 députés auprès de la cabine téléphonique attendaient qu'il se tournât vers eux. Il leur dit que tout était fini au Sénat, que la révision était votée. Alors, une rumeur de joie et d'enthousiasme se répandit jusque dans la salle.
Mais que faisait la Vaubourg ?
Le bruit se répandit tout à coup qu'il avait trahi. Et ce fut une consternation immédiate, une peur glacée qui se répandit en une seconde sur tous les groupes qui s'agitaient dans l'hémicycle. Mais on rapporta presque aussitôt que le commandant l'avait fait mettre dans l'impossibilité de nuire. Et chacun se regarda avec un effroi nouveau. Cela sortait des moyens ordinaires. Cela devenait de l'irrégulier. Il n'aimait pas beaucoup ça. Et puis tout à coup, ce furent des cris, des mouvements d'impatience, le tumulte des pupitres, un énervement extraordinaire. Pourquoi n'en finissait-on pas ? Tout aurait pu être terminé depuis 10 minutes. Pourquoi les avoir dérangés à 5 heures du matin pour délibérer à 6 heures ? Et certains recommençaient à faire les innocents. « Pourquoi nous a-t-on convoqués ? Sur quoi allons-nous avoir à délibérer ? Sur la révision ? Pourquoi ne nous a-t-on pas prévenus ? C'est insensé, nous ne savons rien. On ne nous dit rien. Qu'est-ce que tout cela signifie ?»
Et d'autres ? « Nous sommes ici parce que c'est notre devoir d'être ici. Mais quoi qu'il arrive, nous nous en lavons les mains. »
Pendant ce temps, Jacques, fébrile, attendait son vice-président que devait lui amener l'espinasse. Comme il regardait avec anxiété du côté des quais blêmes et déserts, il ne fut pas peu stupéfait de voir se ranger au bord du trottoir un taxi dans lequel il reconnut Jacqueline. Celle-ci descendit, elle avait 2 plis à la main. Mais, Arrêtée au seuil par les garçons en livrée, elle leur remit les lettres en leur montrant le commandant. Jacques avait déjà fait un pas vers elle. On lui apporta aussitôt cette correspondance. Elle lui était adressée, ainsi qu'à Frédéric et Loni, et il reconnut les deux écritures de Lydie et de Marie-Thérèse. Or, dans le même instant, arrivait enfin l'Espinasse en traînant Tissier. Dès lors, rien n'exista plus pour lui que sa mission. Il était sûr désormais de triompher, s'il ne perdait pas une seconde, et il remit naturellement à plus tard les affaires de cœur et la lecture de sa lettre. Tissier était pâle comme un mort. L'Espinasse avait dû lui montrer la liste des accusés sur laquelle il avait lu son nom. « On n'attendait plus que vous pour sauver la République !» lui jeta le commandant. Et il l'entraîna jusque dans la salle des séances, où leur entrée fut saluée d'une rumeur impatiente. Personne ne savait plus de quoi il s'agissait, ni ce qu'il fallait penser de l'absence de la Vaubourg. L'arrivée de Tissier, qui avait conservé des liens d'amitié avec Pagès, malgré une politique sensiblement différente, fit craindre à certains que l'affaire ne fût déjà éventée et perdue. Mais Jacques, poussant Tissier sur les degrés de la tribune présidentielle, s'écria « En l'absence de notre ami Lavaubourg, victime d'un odieux attentat de nos adversaires, notre ami Tissier vient présider, comme c'est son devoir, cette séance où va se décider le sort de la République. » Des bravos frénétiques éclatèrent. « Oh, alors, du moment que Tissier en était, on avait confiance. » L'Espinasse l'assit au fauteuil et Jacques bondit à la tribune. « Messieurs, s'écria-t-il, le Sénat, suprême gardien de toutes les libertés républicaines, vient de nous donner l'exemple en votant la révision de la Constitution et en ordonnant la réunion immédiate de l'Assemblée nationale à Versailles. Si vous ne le suivez pas sur le champ, dans la seule voie de salut qui nous reste, c'en est fait de la République et des Républicains. Je dénonce ici l'affreux complot ourdi par les fauteurs de terrorisme contre la patrie et la liberté. » La parole rude et enflammée de Jacques n'eut pas de peine à embraser toute cette troupe qui, maintenant, en avait trop entendu pour reculer. Au milieu des cris, des interpellations, des bravos, Jacques lisait maintenant un rapport terrible sur les menées des clubs et le communisme envahissant la province. Enfin, après avoir jeté l'épouvante dans les cœurs en lisant la liste des suspects dressée par la commission d'enquête, il terminait par un appel au courage et à l'énergie patriotique de la Chambre. Aucun de ceux qui étaient là ne réclama d'explication. Le vote fut enlevé. On tenait désormais le pivot sur lequel toute l'opération allait tourner, et il n'y aurait plus qu'à partir pour Versailles. Sur ces entrefaites, Frédéric Elloni arriva avec le décret du président du Sénat, nommant le général Mabel gardien de l'Assemblée nationale. Il fut accueilli par un véritable délire. Tous se croyaient sauvés, arrachés définitivement à la terreur révolutionnaire, et les maîtres d'une nouvelle destinée. Légalement, constitutionnellement, ils allaient donner un nouveau gouvernement à la France, et sans rien risquer personnellement, puisqu'ils avaient l'armée avec eux. « À Versailles ! À Versailles ! À Versailles !» Déjà, quelques députés qui venaient d'être avertis de ce qui se passait par des amis désireux de les entraîner, accouraient, les uns à pied, les autres en voiture, réclamant des explications, furieux d'avoir été tenus à l'écart. Si l'affaire, au cours de la journée qui ne faisait que commencer, hésitait sur le succès, c'était cela qui la précipiterait et se montrerait les plus féroces. Jacques et Frédéric quittèrent la chambre les derniers, après avoir serré 200 mains et versé du courage dans tous les cœurs. Comme ils montaient dans une auto qui devait les conduire à la place de l'Étoile où les attendait le général Mabel, Jacques repensa aux lettres que lui avait remises Jacqueline et qu'il avait oubliées. Il les sortit de sa poche. Chapitre 16. 5 minutes. « J'ai une lettre pour vous, » dit-il à Frédéric Elloni en lui passant le pli qui lui revenait et en commençant de décacheter le sien. « Sans doute une attention délicate de nos deux fiancés, » continua-t-il. Mais il n'acheva pas sa phrase. Il poussait une sourde exclamation et Frédéric lui-même, qui avait lu, avait un cri de douleur. « Chauffeur, arrêtez !» Ils se communiquèrent les lettres. La phrase où Marie-Thérèse donnait ce dernier avis de pénétrer dans la chambre de Lydie sans lumière était terrible. Elonie, qui était devenue d'une pâleur de cire, ne prononçait plus un mot. Il savait de quel prix étaient alors les minutes pour le succès du coup d'État où Jacques avait engagé tant de braves gens. Il attendait dans l'horrible angoisse de son cœur la décision de Jacques. « Le plus simple, » fit tout à coup Jacques, d'une voix que Frédéric ne reconnut pas, « serait que vous vous rendiez immédiatement chez ma mère et qu'après avoir donné l'alarme et pris des nouvelles, vous me rejoigniez à Versailles. Mais il ne passe pas une voiture, pas une auto. » Ah, le combat terrible et rapide dans le cœur et la conscience de Jacques. Frédéric l'examinait avec des yeux d'épouvante. Il lisait clairement qu'il allait donner l'ordre au chauffeur de continuer son chemin. Oui, il lisait cet affreux héroïsme dans les prunelles de son chef. C'était la condamnation à mort de Marie-Thérèse et de Lydie. Alors, ne sachant plus beaucoup ce qu'il faisait, il tira sa montre et dit au hasard « Nous avons peut-être 5 minutes, il ne nous faudrait que 5 minutes. »« Allons-y donc !» hurla Jacques avec une fureur désespérée. Il jeta au chauffeur l'ordre d'aller à l'hôtel de la Morlière. Ils n'attendirent point que l'auto se fût complètement arrêtée pour se jeter dans l'hôtel. Le concierge vit passer les deux hommes avec d'autant plus d'effroi qu'il fut presque jeté par terre dans leur course. Déjà, Jacques était à la porte de Lydie. « Lydie ! Lydie ! » supplia-t-il en secouant la porte. « C'est moi, Jacques ! Ouvre-nous ! Marie-Thérèse, ouvrez-nous ! » râlait de même Frédéric. Puis soudain, les deux hommes, prenant leur élan, se jetèrent d'un même effort contre la porte qui sauta. Alors, une épouvantable odeur de gaz se répandit dans le corridor et dans tout l'hôtel. Jacques courut aux fenêtres, brisa des carreaux et revint, défaillant, rejoindre Frédéric, qui déjà emportait le corps de Marie-Thérèse. Jacques emporta Lydie. On eût pu les croire mortes toutes les deux, tant elles se laissaient aller inanimées entre leurs bras. Jacques criait au concierge de courir chercher un médecin quand Cécilie apparut. Quel nouveau malheur venait donc frapper encore à sa porte? Elle aimait Lydie comme sa fille. Le destin allait-il lui prendre aussi celle-là? Ce fut sur le lit de Jacqueline que l'on transporta les deux jeunes filles. « Elles ont voulu se suicider !» gémit Frédéric. « Mais elles respirent encore !» faisait Jacques avec un soupir d'espoir. Lydie ouvrit des paupières languissantes et poussa un soupir. « De l'air ! De l'air !» cria Jacques. Marie-Thérèse, à son tour, montra ses prunelles éteintes et Frédéric se laissa aller en sanglotant sur son cœur. Il avait trouvé les deux jeunes filles étroitement enlacées sur le lit, comme si elle venait de se donner le chaste et dernier baiser de la mort. Et il ne comprenait rien à ce drame épouvantable, car il n'était pas coupable, lui. Le vrai coupable suppliait sa mère de lui sauver sa fiancée. Sur ces entrefaites, le médecin arriva et pratiquement immédiatement dessaigné, posa des ventouses au niveau de la base du poumon, en avant et en arrière du cou. Mais il ne put dire sur le champ si elles étaient sauvées. « Nous saurons cela dans quelques minutes, » fit-il. Jacques, qui était au genou de Lydie, se leva alors et fit signe à Frédéric de le suivre. « Vous n'attendez pas de savoir ?» leur demanda Cécilie, étonnée. « Si votre fiancé va vivre ou mourir ?»« Non, ma mère, nous sommes sûrs, Frédéric et moi, que tout ce qu'il est possible de faire pour les sauver sera accompli par vos soins. Adieu, mère, nous n'avons plus le droit de rester une minute de plus ici. Ailleurs, on nous attend. et c'est aussi une question de vie ou de mort. Quant à elles, quand elles vous entendront, dites-leur bien que nous les aimons toujours et faites-nous savoir au château de Versailles qu'elles sont sauvées. » L'auto refit la route de folie. Mais quand Jacques et son lieutenant arrivèrent enfin à la place de l'Étoile, c'est en vain qu'ils cherchèrent partout l'auto du général Mabel et le général Mabel lui-même. Il n'y était plus. Chapitre 17. Versailles. Jacques regarda sa montre. Nous sommes en retard de 5 minutes sur l'heure qu'il avait lui-même fixée comme dernière limite de son attente. C'est nous qui sommes en faute. Nous le retrouverons peut-être en route. » Et l'auto repartit comme une flèche. Elle traversa le bois, les villes, les campagnes. Chemin faisant, ils cherchèrent encore à apercevoir l'auto du général Mabel. Mais celui-ci devait être déjà à Versailles. Il avait appris certainement ce qui s'était passé à la Chambre et au Sénat. Peut-être même avait-il déjà vu le président du Sénat. Les troupes, près de 10 000 hommes dont il disposait, devaient être déjà autour du château. Ils dépassèrent plusieurs autos dans lesquelles ils reconnurent des parlementaires amis. Le vieux comte de Chaume disait alors, en montrant Jacques à Varennes, de la grande maison Varennes, qui mit plus de 20 de ses voitures à la disposition du Sénat, « Ce garçon-là sera ce soir au-dessous de Paillas ou au-dessus d'Épaminondas. » Ils arrivèrent à Versailles sans grand retard, mais furent stupéfaits en débouchant sur la place du château de n'apercevoir aucune troupe. Où donc étaient les soldats de Mabel? Où donc était Mabel lui-même? Et où était le bataillon du sub d'Amoun qui aurait dû déjà se trouver dans la cour du château? Un désordre indescriptible semblait régner dans la cour. L'absence de la force armée affolait tous les parlementaires. Les groupes se ruèrent vers Jacques dès qu'ils le virent descendre d'auto. « Eh bien » s'écria-t-on autour de lui. « Et Mabel? Où est Mabel? On l'attend! On vous attend! Que se passe-t-il? » « Mabel arrive !» leur cria Jacques. « Entrez tout de suite dans la salle des séances. Où est le président du Sénat ?»« Mais il attend Mabel! Il vous attend! Nous ne pouvons rien faire sans Mabel !» En s'élançant dans le palais, Jacques se heurta à Michel qui en sortait. « Mabel ! Mabel !» lui cria Michel. « Je le quitte ! Mais tout le monde en séance ! Tout le monde en séance » criait-il dans les corridors. Il faisait l'huissier, il était furieux de la mine déconfite, blême, avachie, de la plupart de ceux qui étaient là, et qui ne croyaient plus à rien parce qu'ils ne voyaient pas les baïonnettes qu'on leur avait promises. Il y avait déjà des députés qui haussaient les épaules, d'autres qui regrettaient d'être venus, d'autres qui raillaient les préoccupations somptuaires prises par le président du Sénat, qui avait voulu que l'affaire se passât dans sa décoration ordinaire et qui avait fait donner des ordres dans la nuit pour que, à l'aile gauche du château, devant l'édifice du Congrès, on dressât un dais de toile. C'est dans le salon réservé ordinairement aux ministres, les jours de Congrès, que Jacques trouva le président du Sénat avec les membres du bureau, et Oudard et Barclay. Il en ressortait presque aussitôt. Sur une des banquettes de velours rouge à crépines d'or de la galerie des bustes, Jacques retrouva Frédéric. « Venez !» lui cria-t-il. « Ces gens-là ne veulent rien faire sans Mabel, et nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Nous allons essayer de tout faire sans lui. » Dans la cour, sur la place, on courut derrière lui. « Où allez-vous ? Où allez-vous ? J'ai rendez-vous avec Mabel. Dans 5 minutes, je suis là, avec le général et les troupes. » Il se fit conduire à la caserne où gîtait provisoirement le bataillon de sub d'Amoun, commandé par les officiers de l'armée coloniale auxquels il pouvait tout demander. Celui qu'il avait remplacé à la tête de cette troupe d'élite était un camarade qui avait fait campagne avec lui, sous ses ordres, le commandant Daniel. Il le trouva à la caserne, attendant impatiemment l'ordre de Mabel qui allait le mettre à la disposition de Jacques. Il fut stupéfait de le voir pénétrer au quartier avec Frédéric et l'entraîna dans une salle. Que se passe-t-il? Vous ne savez pas ce qu'est devenu le général Mabel?
Non.
Moi non plus, mais je viens de dire à tout le monde que je le quittais à l'instant. Voici l'ordre du président de l'Assemblée nationale qui lui ordonne d'assurer la sécurité des représentants du peuple. La Chambre et le Sénat ont, usant de leurs prérogatives constitutionnelles, décidé de réviser la Constitution. Si Mabel était là, il vous dirait, car la chose était entendue avec lui, de réunir vos hommes et de les conduire dans la cour du château, pour vous mettre à la disposition du président de l'Assemblée nationale. Voulez-vous imaginer que vous avez vu Mabel et obéir ainsi à la loi? Dans une demi-heure, je serai nommé chef du gouvernement provisoire, et je vous couvrirai, quoi qu'il arrive.
Commandant, répondit Daniel,
ma vie vous appartient. Les deux hommes se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Merci, Daniel. Si vous ne m'aviez pas suivi, je n'avais plus qu'à me suicider. Faites sonner, et au château, rapidement. Daniel donna des ordres. La caserne s'emplit aussitôt d'un remue-ménage guerrier. Ce n'est pas tout, fit Jacques à son camarade. Si vous voulez me servir jusqu'au bout, vous téléphonerez au chef des différents corps que vous avez l'ordre de Mabel de rallier la place d'armes et le château, et que vous êtes chargé de leur transmettre cet ordre, auquel ils doivent obéir sur le champ. Compris, tout ce que vous voudrez. Supérieurs et inférieurs sont aussi impatients d'agir que moi. Nous ne risquons rien avec eux, du moment qu'ils sont couverts par le décret du président de l'Assemblée nationale. Ah, pourquoi le général Mabel n'est-il pas là? Pas de vaines récriminations, agissons. Daniel courut au téléphone, il en revint presque aussitôt. Le colonel Brazin marche, n'a demandé aucune explication, dit qu'il n'a qu'à obéir. Mais le général Lavigne s'étonne de n'avoir pas vu Mabel et demande qu'on lui montre un ordre. Frédéric, voilà où vous allez nous être utile. Vous allez passer chez le général Lavigne et lui montrer le décret du président de l'Assemblée nationale, et dans toutes les casernes et à tous les chefs de corps. Dites que vous faites cette tournée sur l'ordre du général Mabel. Je compte sur vous pour les emballer. Quant au général Mabel, il est censé attendre tout le monde au château. Il ne peut quitter en ce moment l'Assemblée où il est à l'ordre du président. Entendu, commandant. Avec ce papier-là, je les ferai marcher à fond. Attendez que je vous donne un dernier ordre, car je ne pourrai plus m'occuper de vous. Quand vous m'amènerez la ligne, voilà ce que vous ferez. Vous disposerez un cordon de troupes à une vingtaine de mètres des murs du château. Trois passages, ouverts place d'armes, permettront aux parlementaires et aux ayants droit d'entrer. C'est compris? Frédéric, il ne faut pas que l'on vienne nous dire plus tard que les parlementaires n'ont pas pu passer, hein? Vous saisissez?
Certes.
Cependant, comme nous sommes déjà de trois quarts d'heure en retard, vous vous arrangerez d'ici une demi-heure pour que personne ne passe plus, mais sans recevoir d'ordre pour cela. Tous ceux qui arriveront dans une demi-heure ne vous vaudront peut-être pas beaucoup de bien, Frédéric. Je vous dis des choses que je devrais dire au général Mabel.
Mon commandant,
je ferai partout comme s'il était là, et je donnerai des ordres en son nom.
Allez, et bonne chance, mon ami.
5 minutes plus tard, Jacques était acclamé dans la cour de la caserne par tout le bataillon sous les armes. Un enthousiasme indescriptible s'emparait de ces hommes, à qui il n'avait pas été nécessaire d'expliquer ce que Jacques attendait. « Camarades, leur cria Jacques, le moment est venu de sauver la France. En avant, suivez vos chefs !» Aussitôt, les tambours, les clairons se firent entendre, et le bataillon se mit en route vers la place d'armes, où il arriva dans le moment que le colonel Brazin survenait à la tête de son régiment. L'effet produit fut foudroyant. Jacques paraissait plus que jamais le vrai maître de la situation. Il avait promis des soldats, et il en amenait. Quand les parlementaires aperçurent les uniformes kaki de la coloniale d'une part et les capotes de la ligne de l'autre, ils ne purent s'empêcher d'applaudir comme des enfants. Alors, c'était vrai, ils avaient réussi, ils étaient la loi et ils étaient la force, et il ne dépendait plus que d'eux de débarrasser le pays une bonne fois de ces sectaires dont ils avaient la terreur. Il ne pouvait pas le croire. Dans la salle du congrès, les grands républicains comme Michel, Houdard et Barclay avaient pris enfin leur parti d'aboutir au plus tôt et de risquer le coup, même sans le général Mabel, dont la disparition était aussi inquiétante et aussi néfaste que celle de la Vaubourg. Et ils avaient imaginé de remplacer le dernier au gouvernement provisoire par Tissier, un vrai républicain, ami de Pagès, qui ne laisserait pas, lui, cambrioler la République, tout en la sauvant. Quand Tissier apprit qu'il allait être nommé, il fut stupéfait. Au fond, il continuait à se laisser pousser par les autres, ne comprenant toujours rien à ce qui lui arrivait, ne se compromettant par aucune parole inutile et paraissant surtout ennuyé qu'on lui réveillait si tôt. Sur ces entrefaites, Jacques accourut, cria « J'amène 5 000 hommes qui sont prêts à mourir pour vous, mon président !» Et le président fit son entrée avec un cortège dans la salle des séances. Jacques, au moment où il en franchissait lui-même la porte, ne fut pas peu étonné d'apercevoir, des deux côtés de cette porte, deux magnifiques énormes huissiers à chaîne qui le saluèrent militairement au passage. Il avait reconnu ses deux fidèles gardiens, Jean-Jean et Polydore. Mais, bien entendu, il ne s'attarda point à leur demander des explications. Derrière lui, on se précipita. Députés, sénateurs envahissent les gradins. Une lueur blême tombe du vitrage du plafond, éclairant d'un jour sinistre tout un groupe de douteux, de tarvenus, qui ne savent pas encore s'ils sont de l'affaire et qui se réservent avec des mines hostiles. Ils n'ont encore prononcé qu'un mot devant ceux qui les poussent. La loi, qu'on respecte d'abord la loi, et nous verrons après. Or, le président là-haut se lève et lit le texte constitutionnel en vertu duquel l'Assemblée se trouve réunie à Versailles pour réviser la Constitution. On n'est pas plus légal. Qu'est-ce que les légaux veulent de plus ? Le commandant se précipite à la tribune. « Messieurs, vous êtes les représentants de la nation. Et si vous êtes ici, c'est que vous avez jugé, en votre âme et conscience, que l'état de choses dans lequel nous nous débattons ne saurait durer. En 3 ans, il nous conduirait au despotisme. Mais nous voulons la République, sur les bases de l'égalité, de la morale, de la liberté civile et de la tolérance politique. Avec une bonne administration, tous les citoyens oublieront les factions dont on les fit membres, et il leur sera permis enfin d'être français. N'est-il pas honteux de voir aujourd'hui le pays, comme aux pires heures de son histoire, terrorisé par les clubs et les sectes révolutionnaires? Il est temps de rendre aux défenseurs de la patrie la confiance à laquelle ils ont droit. À entendre quelques factions, nous serions bientôt des ennemis de la République, nous qui l'avons affermi par nos travaux et notre courage. Eh bien, encore aujourd'hui, nous sommes venus pour vous sauver de l'anarchie qui est à vos portes et qui, si vous tardez, viendrait vous empêcher de délibérer. La France veut la liberté pour tous. La nécessité qui s'impose, c'est de restaurer en France la notion du gouvernement avec l'idée de force réglée, d'action continue et de stabilité que le mot « État » implique. Assez de ce régime de château de cartes qui s'effondre au moindre souffle. Seul un gouvernement limité par de sérieuses garanties, mais assez fort, assez indépendant pour se soutenir autrement que par de tyranniques violences, peut nous pacifier à l'intérieur et à l'extérieur. Vous avez, messieurs, à discuter sur ce point et à modifier la Constitution. Mais de tels problèmes ne se résolvent pas en 24 heures. Pour y travailler, vous avez besoin d'une grande paix. Aussi, je vous adjure, au nom de la France, au nom de la République, de nommer, jusqu'à la fin des travaux de l'Assemblée nationale, un gouvernement provisoire, qui, sous la haute autorité du chef de l'État, dont nous laissons la personnalité en dehors de cette bataille, saura vous garder de vos ennemis. Messieurs, 2 hommes suffisent à cette tâche, qui, espérons-le, sera rapide. Choisissez-les. Choisissez-les vite et bien. car j'entends déjà les rumeurs de la place publique et des fauteurs de discorde. Que ces deux hommes soient forts et unis. Choisissez un vieux républicain comme Tissier et un soldat, vous en avez besoin. Mais si vous connaissez un soldat plus républicain que moi, prenez-le. » C'est sur ces mots qu'il descendit. Un tonnerre d'applaudissements accueillit sa péroraison, en même temps qu'un grand tumulte traversait la place d'armes, la cour du château, la galerie des tombeaux, dite aussi galerie des bustes, et se répercutait jusque dans la salle des séances du congrès. C'était une douzaine de députés de gauche, à la tête desquels on voyait Mulot et Coudry. Ils écumaient. Ils traînaient avec eux un membre hagard du gouvernement, le ministre des Travaux publics, le pauvre Taburet, le seul qu'ils avaient pu trouver au cours de leur brusque ruée à Versailles. Ils avaient été mis au courant des événements par des indiscrétions inévitables et redoutaient d'arriver trop tard. Heureusement qu'il n'en était rien. Il racontait qu'Hérisson était devenu fou et qu'il avait couru de ministère en ministère en jurant comme un possédé. On disait qu'il avait jeté le ministre de la guerre dans son auto et qu'ils étaient arrivés comme des énergumènes chez Flotard. Enfin, peu à peu, tout se savait et on accourait à Versailles de partout. Quand il vit la horde glapissante faire irruption dans la salle du congrès, Jacques comprit que derrière ces 12-là, les autres allaient arriver. Il courut à la porte et dit à Jean-Jean « Courez tout de suite auprès de Monsieur Frédéric et dites-lui qu'il ne laisse plus passer personne. Vous entendez? Plus personne. » Et il rentra dans la fournaise. Déjà on se battait. Coudry et Mulot criaient « Vous êtes des voleurs, des assassins, vous avez voulu violer la Constitution, assassiner la République, mais on ne vous laissera pas faire. Assassins, assassins !» L'espinasse s'était jetée à la gorge du Coudry et Mulot essayait de les séparer. Pendant ce temps, Jacques, Michel, Houdard, Barclay précipitaient les événements. Ils avaient la majorité, il fallait en user vite. Le président mettait aux voix un projet de loi signé de 20 noms, notoirement républicains, nommant un gouvernement provisoire pour la durée des travaux de l'Assemblée. Un instant, certains malins avaient pensé qu'il fallait prendre Jacques au mot et nommer un autre duumvire que le commandant avec Tissier. Mais à la dernière minute, le prodigieux tumulte causé par l'arrivée des révolutionnaires les rejeta tous dans les bras de Jacques. Le président sentait qu'il n'y avait plus une minute à perdre, et c'est ainsi que l'on avait catégoriquement mis de côté l'idée de réunir une commission qui aurait tenu une séance de 5 minutes et qui serait revenue avec un rapport bâclé. Il fallait aller au vote tout de suite sur le projet et le rendre exécutoire à la minute. L'Assemblée nationale, en son plein pouvoir, devait tout se permettre pour le salut de l'État. Les plus trembleurs n'eussent point demandé mieux que le vote fût acquis par « assis et debout », mais le président s'y opposa. Il craignait les lâcheurs plus tard, et il ne fallait point que la comédie dégénérât en farce. Et puis, toute l'autorité du coup d'État viendrait de l'honnête dépouillement des bulletins et du vote régulier et public. Encore une fois, que craignait-on? On n'avait qu'à laisser hurler les 12 démocrates et leur dompteur Coudry, et les autres n'avaient qu'à voter. Du reste, en un clin d'œil, on tira les noms des 36 scrutateurs qui seraient chargés de dépouiller le vote et de pointer les bulletins. L'appel nominal commence. Au train dont vont les choses, tout sera fini dans 3 quarts d'heure peut-être, car on se rue à la tribune pour voter, et pas une seconde n'est perdue. Il y a des manquants, heureusement. Tous veulent du gouvernement provisoire. Tous votent pour le commandant Jacques et pour Tissier. Duumvir. C'est alors que Pagès, venant d'on ne savait tout, surgit dans la salle des séances comme un diable d'une trappe. Les yeux lui sortaient de la tête, ses cheveux se tenaient droits sur son front, habité par l'horreur de l'attentat qui avait été perpétré et par la surprise de n'en avoir rien su. Il désigna tout à coup le commandant Jacques et prononça ces mots « Hors la loi !»